BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Marie Vallogne.
Bonjour à tous et bienvenue dans HebdoCom, votre rendez-vous publicité et communication sur BFM Business. Aujourd'hui, nous recevons Gauthier Piquet, il est président de l'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Avec lui, nous reviendrons sur One Next, une nouvelle étude pour mesurer l'audience des marques de presse dans leur globalité, print ou digital, un outil qui devrait permettre aux médias écrits d'être plus attractifs auprès des annonceurs. L'édito du jour est signé Valérie Potin. Valérie décryptera pour nous l'action de désinformation menée par le groupe activiste Extinction Rébellion. Et puis notre Zoom sera consacré aux créations publicitaires. Même si les canyons sont annulés, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur ce bilan de l'année. Nous ferons le point sur les grandes tendances avec Léni Stern, la directrice des stratégies de divertissement de BETC. Voilà le programme, tout de suite, les news de la semaine.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Frédéric Roy, bonjour.
Bonjour Marie.
Le rédacteur en chef de CB News et Julien Rizzo de la rédaction de BFM Business.
Bonjour. Bonjour Marie.
Alors Julien, on commence avec cette polémique autour de la nouvelle publicité de Vendemouth.
Oui, l'autorité française de régulation de la publicité a-t-elle censuré la campagne de la marque? C'est en tout cas ce qu'estime le fabricant néerlandais de vélos électriques. La publicité met en scène une voiture sportive, des images se reflètent sur sa carrosserie. On y voit de vieilles cheminées d'usines fumant, des embouteillages et un accident. Puis le véhicule se liquéfie pour laisser place à un vélo de la marque. Déjà diffusée aux Pays-Bas et en Allemagne, elle ne le sera pas en France, du moins sans être modifiée. La RPP considère que cette campagne jette le discrédit sur la filière automobile et crée un climat anxiogène. Mais pour Vendemouth, l'autorité défend les intérêts de l'industrie automobile. L'entreprise n'envisage pas de faire appel ni de porter l'affaire devant les tribunaux, préférant, je cite, donner une visibilité publique à ce qu'elle considère comme une dérive. De son côté, la RPP précise qu'elle ne délivre qu'un avis consultatif. À la fin, il relèvera des médias et des plateformes de prendre la responsabilité de la diffusion de cette campagne.
Autre actualité de la semaine dans le secteur de la pub, c'est BETC qui perd des annonceurs historiques.
Oui, la marque Peugeot a retenu l'agence américaine Omnicom pour sa communication publicitaire et marketing au niveau mondial à partir du 1er janvier 2021 et pour une durée de 3 ans. L'annonceur quitte donc le groupe Havas et BETC avec qui il travaillait depuis 30 ans. Ce qui a fait pencher la balance, c'est la création par Omnicom d'une agence exclusive pour la marque. Peugeot bénéficiera d'un nouveau modèle intégré, informé et centré sur l'international, a expliqué le directeur marketing et communication du groupe. Même choix pour Air France qui a retenu Aura, une structure ad hoc de l'agence américaine Omnicom, pour sa communication après l'avoir confié pendant 21 ans à BETC, une collaboration qui débutera au mois d'octobre. Enfin, dernier départ annoncé pour BETC, Evian qui confierait son budget publicitaire global à Wyden & Kennedy. Il la mettrait fin ainsi à 25 ans de partenariat avec BETC.
BETC qui traverse une mauvaise passe, donc on prendra le pouls de l'agence avec notre invitée Léni Stern, la directrice des stratégies de divertissement de BETC dans un instant. Enfin Julien, de grands annonceurs boycottent Facebook.
Adidas, Coca-Cola ou encore Levi's. Au total, plus de 400 marques ont retiré pour au moins un mois leur campagne de publicité sur le réseau social. Une démarche contre le laxisme de Facebook envers les propos haineux et racistes qui surgissent sur les réseaux sociaux depuis la mort de George Floyd à Minneapolis le 25 mai dernier. À l'origine de ce mouvement intitulé Stop Hate for Profit, des organisations de défense des droits civiques qui ont appelé les entreprises à boycotter le réseau social. Les marques Patagonia et North ont été les premières à répondre à cet appel. Par la suite, des grandes marques se sont rattachées à ce mouvement et ont installé ce mouvement dans la durée. Unilever, par exemple, a renoncé à ses publicités sur le réseau social jusqu'à la fin de l'année. De son côté, Mark Zuckerberg défend son approche plus tolérante que celle des patrons de Twitter et de YouTube. Au nom, dit-il, de la liberté d'expression, il a invité les organisateurs du boycott à discuter avec lui en début de semaine prochaine.
Un mouvement donc qui prend de l'ampleur, les marques qui prennent de plus en plus position sur des sujets sociétaux. Les marques doivent-elles s'engager pour exister? On en parlera la semaine prochaine dans HebdoCom. Merci Julien Rizzo.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et nous recevons aujourd'hui Gauthier Piquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Vous avez dévoilé One Next. C'est une toute nouvelle étude qui mesure l'audience des marques de presse sur tous ces supports, que ce soit en print ou en digital. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? En quoi cette étude est une nouveauté?
Ah, c'est une nouveauté, c'est surtout de révolution technologique. Cette étude, en fait, ça fait 2 ans et demi, voire 3 ans qu'on y travaille. Elle est là pour marquer tout simplement l'évolution de la consommation des médias, la transformation des éditeurs et le travail formidable des journalistes, et aussi répondre tout simplement aux besoins des annonceurs et des agences médias qui ont besoin d'un ciblage plus granulaire, plus ciblé. Alors la révolution de cette étude, c'est tout simplement la fusion d'un panel en single source panel, c'est-à-dire que nous avons travaillé avec l'Excellence française, Médiamétrie, Kantar et le CESP pour fusionner l'ensemble des panels, le panel Médiamétrie Internet, le panel Kantar sur la consommation des médias et puis évidemment la mesure ACPM pour avoir une seule base de données qui nous donne aujourd'hui des informations extrêmement précises sur la consommation des médias, sur la consommation et le comportement des individus.
Alors pour les marques de presse, quel va être l'intérêt de cette étude ?
Eh bien pour les marques de presse, ça nous permet en fait de revaloriser la marque presse. Vous l'avez très bien dit, en fait l'objectif de cette étude, c'était de passer d'une étude siloïsée qui donnait aujourd'hui de l'audience de titres de presse à aujourd'hui la marque de presse, et puis surtout de donner à la presse ses propres KPIs. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que la presse a des KPIs très précis, de confiance, d'attention, de désirabilité. Et ça nous a permis tout simplement de mettre en avant le formidable travail des éditeurs et donc d'avoir aujourd'hui des chiffres extrêmement forts sur ce média qui est en fait un média de puissance et un média surtout très riche, on va dire, d'enseignement.
Alors, juste les KPIs.
Les KPIs, ça va être tout simplement qu'on va pouvoir démontrer que lorsque l'on prend un titre de presse, un lecteur a un titre de presse, il va y donner plus d'attention, d'attention sur le contenu, aussi d'attention sur la publicité. Donc dans notre métier de professionnel à la publicité, on va pouvoir faire des tris en fait sur la question de confiance, la question d'engagement, d'incitation à l'achat, la tension. Donc en fait des nouveaux systèmes de mesure qui vont pouvoir tout simplement nous donner pour nous en agence média et pour les annonceurs plus de granularité et afin de répondre évidemment à leurs attentes.
Alors la bonne nouvelle quand même de l'étude, c'est qu'on apprend ou on confirme que la presse ne va pas si mal que ça, qu'elle a beaucoup de la presse, que les marques de presse ont beaucoup de lecteurs, ont beaucoup de contacts, touchent beaucoup de gens qui les lisent très souvent. Ce dont on ne se doutait peut-être pas, en tout cas c'est pas l'image qu'elle a en ce moment. Donc est-ce que ça va peut retourner en quelque sorte la situation?
Je l'espère, c'est vraiment en tout cas le travail qui a été mené. L'objectif était un peu de casser cette image de la presse est morte, plus personne ne lit la presse. 97% aujourd'hui des Français lisent la presse. Et puis surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a 85% des 15-24 qui lisent la presse en ligne, où 57% de l'audience de la presse est digitale. Donc on a tout simplement une presse qui s'est renouvelée. Comme je le disais, un formidable travail des journalistes, des éditeurs pour transformer ce média, ces 10 dernières années, et il était temps en fait de mettre en avant ces grands résultats. Aujourd'hui, on a pu voir par exemple que 9 marques de presse ont plus de 20 millions aujourd'hui de lecteurs. C'est énorme.
Et pourtant, ça va mal.
Et pourtant, c'est difficile. Et pourtant, la presse vit depuis plusieurs années une période publicitaire difficile. Donc, c'est pour ça qu'il nous fallait, je pense, cette mesure pour donner du rationnel, pour donner aussi tout simplement un nouvel étalon de mesure. C'est important parce qu'on est dans un monde où, de comparaison, on est dans un monde où il faut toujours montrer les plus grands chiffres. Et bien là, en fait, l'objectif, c'était de montrer que la presse est un média puissant, mais surtout un média qui apporte quelque chose de différent des autres. On n'est pas là à un moment, avec cette étude, pour dire quel est le média le meilleur ou le média le moins bien. On est là pour dire que la presse apporte énormément de nouvelles choses et apporte surtout, je pense, vraiment une granularité aujourd'hui avec cette étude, une granularité de ciblage. On est dans un monde où on est plus dans la masse personnalisation aujourd'hui, et donc cette étude va nous permettre d'accélérer cette masse personnalisation.
Est-ce qu'aujourd'hui, pour mieux se vendre, les marques de presse doivent se vendre plus justement comme une marque que comme un média?
Oui, je pense qu'au fait aujourd'hui, les marques de presse, elles doivent se vendre dans l'évolution de la consommation des médias des Français. Vous et moi, nous consommons tous les jours des médias sans se soucier de savoir si on les consomme sur le print, sur le digital. Ce que l'on cherche tous, les Français aiment les médias. Les Français, on l'a vu après cette crise, sont médiavores. Ils aiment aujourd'hui leur marque. Ils ont confiance en leur marque. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de créer des écosystèmes de marques. Et d'ailleurs, je pense que cette étude va nous permettre de reconnecter les marques de consommation aux marques de presse, et donc d'avoir, on va dire, un écosystème média totalement élargi et non pas siloïsé.
Alors vous êtes aussi, j'ai envie de dire, avant tout patron de Publicis Média, l'agence média du groupe Publicis. Vous êtes aussi président de l'UDECAM, le syndicat des agences médias. Donc vous êtes super bien placé pour inciter les annonceurs à investir dans ces marques de presse. Évidemment, cette étude va vous y aider, mais qu'est-ce qu'il faut ? Parce que là, il y a même urgence, quoi. On le voit quasiment tous les jours.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut de la pédagogie.
Ouais.
Clairement, aujourd'hui, notre travail pour nous, Agence Média, c'est de conseiller au meilleur investissement les annonceurs. Ouais. Le choix ultime est chez les annonceurs. Mais il faut aussi une grande pédagogie dans les agences médias. Les agences médias, c'est une population jeune qui est très axée sur la transformation, sur l'accélération de la data. Donc nous devons à un moment faire acte d'une grande preuve de pédagogie, de formation, de réexpliquer l'enjeu d'une marque de presse et non pas en fait siloiser cette presse à des titres d'autres presse. Et puis tout simplement, grâce à ces nouveaux KPI, ces nouveaux, on va dire, indicateurs de performance, de montrer la pertinence d'un climat de lecture, d'un contrat de lecture, et tout simplement de ce côté, de cette caution que peut avoir une marque, et ça c'est très important, dans un plan média. Donc beaucoup de pédagogie, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de formation, et puis tout simplement, eh bien, de peut-être aider à réouvrir les yeux sur un média que trop longtemps, en publicité, trop longtemps, on mettait en niche. Et donc là, on va pouvoir à un moment montrer que la presse, bah, c'est un média absolument formidable.
Est-ce que le sujet, au final, c'est pas de mieux monétiser la marque presse, les marques de presse, dans leur globalité ?
Je l'aurais pas mieux dit. C'est exactement le sujet. C'est la monétisation à la fin, évidemment, mais c'est donner du rationnel à cette monétisation de la presse. Aujourd'hui, clairement, il faut qu'on arrive à dépasser le challenge. Les marques de presse sont fortes, la presse est forte. Maintenant, il faut clairement que l'investissement revienne en presse.
Ouais, c'est ça. Il faut être. On peut être optimiste, selon vous, après cette étude, notamment sur l'avenir des marques de presse.
Je crois que c'est l'ADN même de la communication, c'est de rester optimiste. Il faut l'être pour la presse, mais il faut l'être pour notre métier. Notre métier, il apporte de la vie, il apporte de l'optimisme, et donc sans optimisme, on n'y arrivera jamais. Donc je pense que cette étude, réellement, va nous permettre rationnellement eh bien, d'apporter des réponses précises aux annonceurs, aider les éditeurs, et puis tout simplement aussi aider les agences médias à faire mieux leur travail. Donc oui, j'ai envie d'être optimiste.
Alors, votre étude montre aussi que les Français consomment donc de plus en plus la presse sur le digital. Pourtant, il y a un paradoxe. Les investissements publicitaires sont toujours plus importants en print qu'en digital. Comment ça s'explique ? Est-ce que c'est la concurrence des GAFA qui leur fait de l'ombre ?
Ah, alors, déjà, je pense qu'il faudrait l'analyser par catégorie. Heureusement, et c'est très important, la presse papier a encore de très grands jours devant elle et des annonceurs ont besoin de poser des discours, d'utiliser ce temps long, d'avoir aussi de temps en temps plus de pédagogie. Et puis, certains secteurs sont très attachés.
Du web, en fait, les investissements publicitaires sont quand même moins importants qu'en print.
Tout à fait. Alors là, il y a un très gros travail qui a été amorcé depuis plusieurs années avec le syndicat des régies Internet pour valoriser eh bien, la qualité éditoriale et puis aussi la qualité, la transparence et la brand safety sur les sites internet. Je fais référence évidemment au label Digital Ad Trust que la CPM accompagne, qui est un label extrêmement important. Et d'ailleurs, nous allons sous quelques jours et quelques heures, sortir les prochains résultats eh bien, du syndicat des régies internet pour montrer comment là aussi les agences et les annonceurs accompagnent le Digital Ad Trust et donc accompagnent clairement en marquant la confiance dans les sites de presse de temps en temps versus des plateformes qui sont peut-être moins, on va dire, labellisées.
Merci Gauthier Piquet d'avoir été avec nous. Gauthier Piquet, le président de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Un édito signé aujourd'hui par le journaliste spécialiste des marques et des médias, Valérie Potin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Valérie, on parle aujourd'hui fake news avec cette action de désinformation menée par Extinction Rébellion contre un fonds de pension suédois, mais aux dépens de l'AFP.
Exactement. Alors même si l'action, elle ne visait pas initialement, en tout cas en priorité, l'AFP, l'agence de presse qui, en plus par un malheureux hasard, présentait il y a quelques jours sa nouvelle identité visuelle et qui se revendique comme une balise de l'information fiable et rigoureuse, ben elle a pris un petit coup derrière la tête parce qu'au même moment, elle a relayé cette fake news hein, qui était orchestrée, imaginée par Extinction Rébellion. Alors cette fake news, on y retrouvait une info selon laquelle AP7, qui est un fonds de pension suédois, annonçait qu'il se retirait des entreprises développant les énergies fossiles. Et pour en arriver là, eh bien, le groupe altermondialiste hein, qui a fait de la désobéissance civile non violente son mode d'expression et son mode opératoire, il a diffusé, il a adressé à l'AFP un faux communiqué. Il a mis en ligne parallèlement un faux site internet, les deux étant la copie conforme des originaux. Tout ça pour intoxiquer la rédaction jusqu'à ce qu'elle finisse par diffuser l'information. Et une fois l'information diffusée, eh bien, Extinction Rebellion n'avait plus qu'à revendiquer l'info pour créer un buzz.
Alors, est-ce qu'il va falloir s'habituer à ce nouveau mode opératoire aujourd'hui ?
Alors, c'est une pratique qui reste encore marginale et qu'on retrouve pratiquée à des degrés un petit peu divers, mais c'est clair qu'elle devient de plus en plus fréquente. Pour retenir quelques exemples un peu marquants, en janvier 2019, il y avait d'ailleurs pour les mêmes motivations, hein, c'est BlackRock, le fonds d'investissement le plus puissant du monde quand même, hein, qui a été victime du groupe d'activistes des Yes Men cette fois-ci, et qui avait détourné la lettre annuelle de Larry Fink, qui est le CEO de BlackRock. La fausse information avait été reprise à l'époque par le Financial Times, avec tous les dégâts qu'on peut imaginer derrière. Il y a 2 ans, c'est Greenpeace qui s'était attaqué à un autre fonds de pension suédois aussi, AP3 cette fois-ci, et qui avait investi les locaux pendant une réunion et qui avait surtout déroulé toute une banderole. Et puis il y a aussi des cas parfois un peu plus graves et un peu plus douloureux. On se rappelle par exemple de 2016 où Vinci cette fois-ci avait vu son cours de bourse chuter de près de 20% quand même en quelques minutes après la diffusion par Bloomberg d'une information sur les résultats de l'entreprise. Alors là encore, le mode opératoire était le même, une fake news diffusé cette fois-ci par le biais d'infos communiquées avec un faux contact, un faux numéro de téléphone, avec un faux employé de Vinci qui vient confirmer la fausse information. Donc en 7 minutes quand même, en quelques minutes, pardon.
C'est pas beaucoup aussi. Hein.
Ouais, c'est ça. Quelques minutes, il y a 7 milliards d'euros quand même qui s'étaient volatilisés avant que l'action ne puisse remonter, avec au final donc une baisse nette de 3,76% à la clôture, pardon.
Mais à la fin, qu'est-ce qui gagne quoi, à part ceux qui perdent?
Alors, justement, il y en a un peu pour tout le monde. Pour Extinction Rebellion, clairement, c'est un coup de projecteur, évidemment, sur la structure, mais c'est surtout l'occasion de faire parler de la cause environnementale dans les médias, mais surtout d'en faire parler en défendant l'idée que, justement, la lutte contre le réchauffement climatique, elle passe forcément par un arrêt complet du soutien, justement, à toutes les industries et à l'exploitation de l'énergie fossile. Pour AP7, là, on ne parle pas de gains, bien entendu, on va parler plutôt de coûts. Hein, et là, c'est le coût de la gestion de la crise, tout simplement, dans les médias, de la gestion de la crise auprès des clients, à qui, Extinction Rebellion a rappelé qu'ils investissaient, peut-être sans le savoir, dans des industries de moins en moins glamour, de plus en plus décriées, on va dire. Ils ont aussi pu constater que leur fonds, finalement, ne maîtrisait peut-être pas toutes les informations qui le concernaient. Et à partir de là, donc, ça peut leur permettre de douter un petit peu de la fiabilité ce fonds. Puis enfin, pour l'AFP, évidemment, on va dire que c'est un mal pour un bien. C'est sûr que l'agence a été clairement décrédibilisée, que ce n'est bon ni pour son image ni pour sa crédibilité, ça c'est sûr. Mais pour elle, comme pour pratiquement tous les médias, on peut dire que cette affaire, finalement, elle est à prendre comme un signal d'alerte, et qui nous rappelle que l'information, la vraie, celle qui est justement fiable et rigoureuse, eh bien, elle nécessite une attention de tous les instants, et puis les moyens qui vont avec.
Merci Valérie Potin pour cet édito.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
La directrice des stratégies de divertissement de BETC, Léni Stern, nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va revenir sur l'annulation des Cannes Lions dans un instant, sur les créations publicitaires de l'année, puisque BETC fait office de référence. Avant cela, j'aimerais juste vous entendre sur les récentes pertes de budget de BETC. Julien le disait dans CNews, il y a eu Air France, Peugeot, on parle aussi d'Evian. Quelles vont être les répercussions sur votre agence?
Alors, écoutez, moi, je crois que... aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a une très jolie page de l'histoire de la publicité française qui vient d'être tournée. Quoi qu'il en soit, on continue d'en écrire les plus beaux chapitres aujourd'hui. Donc forcément, je crois qu'on peut être fier du travail qui a été mené pour ces très belles marques. Je crois que leur histoire aussi va continuer. On espère aussi la voir continuer sous les plus beaux auspices. Ensuite, voilà, c'est la vie des agences.
Vous avez des raisons?
Alors, moi, j'ai pas eu de raison officielle, j'ai pas travaillé sur ces sujets, mais voilà, aujourd'hui, je crois que, je crois qu'il faut se tourner vers l'avenir, et c'est la vie des agences, c'est notre quotidien.
Alors, il y a autre chose qui s'est passée cette année, je ne vous l'apprends pas, c'est le Covid.
Oui.
Et le fait qui a, entre autres, entraîné l'annulation des Cannes Lions qui ont lieu traditionnellement en juin.
Cannes Lions, ouais.
Voilà. Et donc, malgré tout, c'est quand même un rendez-vous extrêmement important dans le monde de la, dans le monde de la créa. Nous, ce qu'on se demandait, c'est, vous n'y êtes pas allé? Nous n'y sommes pas allés, mais si vous y étiez allés, est-ce que vous auriez là dans la tête, est-ce que vous auriez un prix, un grand prix? Il y a un truc qui vous a marqué particulièrement cette année, où ça, voilà, que vous auriez défendu en tout cas là-bas?
Alors oui, effectivement, je pense qu'on s'est tous à un moment posé la question de qui aurait pu gagner, quelles étaient les campagnes, parce qu'il y a eu énormément de campagnes cette année qui sont sorties et qu'on aurait voulu voir auréolées de succès. Après, forcément, on relativise vis-à-vis du contexte. On se pose d'autres questions. Quoi qu'il en soit, des grands prix, oui, il y a certaines campagnes qui auraient pu aujourd'hui être célébrées. J'aurais pu vous parler du Moldy Whopper, par exemple, de Burger King, mais j'avais envie de vous parler d'une autre campagne qui n'aurait certainement rien gagné cette année du fait qu'elle n'aurait pas été mise en compétition. Et pourtant, elle a gagné un Oscar. Et un Oscar, c'est pas rien.
Ouais.
Et je crois que c'est un très joli signe aussi à adresser, nous, à notre industrie. Il s'agit de Hair Love,
voilà.
Exactement, Hair Love de Dove. Donc c'est un joli court-métrage sur l'histoire d'un papa afro-américain qui apprend à coiffer les cheveux de sa fille. C'est un beau court-métrage derrière lequel en fait la marque Dove n'a été que sponsor, et donc c'est effacé au profit du message et des valeurs qui ont été véhiculées par le court-métrage. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, je pense que c'est pétri d'enseignements pour nous et pour notre industrie, c'est la manière dont Dove a été associé au succès de ce court-métrage, et donc avec une stratégie, une mécanique PR, parce que finalement, en fait, ça reste une stratégie publicitaire qui va avoir tendance à se démocratiser, et c'est hyper intéressant pour nous de se dire que demain, en tout cas, et ça, c'est le cas déjà aujourd'hui, mais demain, ça pourrait être une des manières de communiquer et une des manières aussi
que la marque s'efface au profit
que la marque s'efface, mais que derrière, en fait, il y a une stratégie RP assez puissante qui fait que, mine de rien, Dove a été associé au succès de ce court-métrage, a été associé à cet Oscar. Et c'est pas rien, une marque qui gagne un Oscar.
Oui, bien sûr. Est-ce que, au-delà d'un grand prix, il y a des tendances que vous avez vues s'affirmer cette année?
Alors effectivement, à chaque fois, l'intérêt de Cannes aussi, c'est d'aller chercher les grandes tendances, d'aller discerner les signaux faibles. Il y en a plusieurs, évidemment. La première, je dirais, c'est la force du propos, la force de l'engagement. C'est quelque chose qui se dessine déjà depuis plusieurs années. Sauf que là, on est sorti du militantisme opportuniste, qui aurait pu être un petit peu, qui a été fortement critiqué, en tout cas, ces dernières années. Et on est plus dans l'acte communicant engagé. On est plus dans l'accompagnement des marques, dans la construction de leur raison d'être. Et nous, notre travail à nous, c'est d'en écrire la partition pour qu'ils puissent que ces marques puissent avoir un rôle et tenir un rôle dans la société, parce que c'est essentiel aujourd'hui.
Alors, parmi les coups de cœur des publicitaires cette année, on nous parle aussi dans CB News, l'excellent CB News, du concert virtuel du rappeur Travis Scott, un concert organisé donc sur le jeu Fortnite avec Epic Games et qui a connu un énorme engouement en avril dernier, des millions de joueurs, des millions de téléspectateurs. Qu'en avez-vous pensé?
Alors déjà, oui, effectivement, et ça sera la deuxième grande tendance, l'entertainment, effectivement, qui est au cœur aujourd'hui de nos préoccupations. Je crois qu'il faut déjà saluer la démarche d'être allé chercher son audience là où elle se trouve pendant le confinement, à savoir là notamment sur Fortnite. C'est pas rien, c'est même astronomique, de réunir plus de 27 millions de joueurs, de spectateurs. Ce qu'on aime beaucoup, et c'est pareil dans la démocratisation des usages, ce qui est très intéressant dans l'exemple de Travis Scott, c'est pas tant le fait d'avoir fait un concert live dans Fortnite, enfin live différé, ça a déjà été fait, il n'y a rien d'innovant là-dedans. En revanche, ça démocratise aussi ce qu'on appelle la mixed reality et cette capacité à créer des ponts entre la fiction et la réalité. Et nous, ça nous ouvre un champ des possibles formidable et ça libère la créativité, ça nous donne un terrain de jeu beaucoup plus vaste.
Cette année, on a effectivement vécu, à cause du confinement, beaucoup de choses en ligne. Et puis, il y a eu cette tendance à l'engagement dont vous parliez à l'instant, et qu'on revoit encore plus en ce moment avec ce qui se passe aux États-Unis et Black Lives Matter, mais notamment la polémique de L'Oréal.
Parce que je le vaux bien.
Oui, parce que vous le valez bien, bien sûr, Marie. Est-ce que au fond, il n'y a pas un détournement de la fonction des marques dans leur rôle? Est-ce que c'est leur rôle d'être de donner leur avis sur la politique?
Alors, justement, là, je crois qu'on est typiquement dans un cas d'opportunisme qui, en perception, semble gratuit. Ouais. La manière dont L'Oréal a événementialisé sa prise de décision, c'est de l'opportunisme au regard du contexte. Je pense qu'on n'en est plus à demander aux marques de gribouiller leur packaging au service d'une grande cause. On a dépassé ça, on a besoin d'actes beaucoup plus forts, de prise de risque qui engage aussi le business de ces marques, et on a surtout besoin d'humilité.
Merci Léni Stern d'avoir été sur notre plateau, donc la directrice des stratégies de divertissement de BETC. Merci à Frédéric Roy de CB News. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.